Et donc, j'aimerais ce matin parler de ce sujet qui me paraît assez récurrent, parce que je crois que l'intégrité, c'est une force dans laquelle nous sommes confrontés les uns et les autres. Et quand j'ai regardé la définition de ce mot, eh bien, état d'une chose qui n'a pas été altérée. Et j'ai trouvé aussi des synonymes qui sont l'honnêteté, l'impartialité, l'intégralité, la probité, la totalité, puis dans un autre dictionnaire qui définit l'intégrité comme, bien entendu, l'honnêteté, une vertu, et puis aussi un mot qui a résonné aussi, droiture. La Bible va plus loin que ces définitions, puisque l'intégrité biblique suppose une conduite irréprochable. Et c'est vrai que l'intégrité, ça va plus loin que le refus de mentir, plus loin que le refus de décevoir, de voler, de manipuler les autres. Enfin, une personne intègre doit être une personne sincère. Alors, en préambule, je me suis posé la question pour moi-même déjà, parce que quand on traite un tel sujet, c'est de s'examiner soi-même, comme le dit la parole de Dieu. Et la question que je dois me poser, que je me suis posée, suis-je une personne intègre? Alors, nous avons vu, hein, on a fait découler un petit peu ce sujet sur différentes choses. Et ce matin, nous allons voir la force de l'intégrité où Dieu dit à un homme, Abraham, marche devant moi et sois intègre. Dans la Genèse, au chapitre 17, et dans la version Colombe, parce que dans la version second, vous n'aurez pas la même phrase. Marche devant moi et sois intègre. Donc le mot intégrité n'est pas tout jeune. Donc le mot intégrité a déjà utilisé dès le départ dans la Genèse, et où Dieu demande à Abraham, sois intègre, marche dans l'intégrité. Alors je ne sais pas si Abraham comprenait ce mot comme nous le comprenons aujourd'hui, mais il nous est dit, dans ce verset 17, lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance avec toi et je te multiplierai à l'extrême. » Dieu a tenu sa parole. Mais quand on regarde Abraham, il n'a pas toujours été intègre dans sa vie. Et quand je regarde bon nombre d'hommes, quand je me regarde à moi-même, je me dis, j'ai pas toujours été intègre. J'ai pas toujours été droit. Et c'est vrai que dans ce mot intègre, quand on regarde plusieurs versions des Bibles, par exemple Darby et la version de Jérusalem, il dit, sois parfait. Oh, ah ben ça monte encore d'un cran. Et puis une autre version anglaise qui nous dit « Montre-toi sans défaut. » Bon, ça devient compliqué tout ça. Hein. Et puis il y a une autre version, l'abbé Crampon. Ah oui, des fois, excusez-moi de mes lectures, des fois. Mais c'est des fois intéressant. « Sois irréprochable. » Oh là là là. Non, je t'ai plus, la cour est pleine. Hein. Et puis la version Chouraki qui nous ramène « Sois intègre, tout simplement. » Alors c'est vrai que la vie de tous les jours, dans notre quotidien, est-ce que nous sommes intègres? Ça se voit pas, moi je vois pas si vous n'êtes pas intègre là. Ça se voit pas si vous êtes intègre. Je ne peux pas deviner, je ne suis pas Irma la voyante. Mais Dieu lui sait, Dieu sait. Et c'est vrai qu'il y a différents domaines dans lesquels l'intégrité doit être vécue concrètement. Ce n'est pas seulement une attitude de l'esprit. Ce n'est pas seulement dire « oui, oui, il faut être intègre ». mais il faut surtout l'être dans les faits, lorsque je suis devant une situation quelconque. Parce qu'elles se présentent tous les jours, ces situations d'intégrité. Vous vous rappelez l'autre dimanche où je vous disais, par exemple, quand je vais à la boulangerie et que je prends mes 4 pains ou 5 pains pour ma semaine, et que j'en mets un sur le tapis et les autres, ils restent dans le caddie. Ça vous arrive pas, ça? C'est un peu, vous les mettez tous les 5 sur le tapis, parce que vous n'en prenez pas 5. C'est pour ça. Et souvent, il arrive que la personne qui est en train de taper n'en compte qu'un. J'ai dit, vous avez compté ceux qui sont dans le caddie? Ah non, j'ai oublié. Eh oui. Ça, voilà un petit détail. Puis il y en a, on pourrait les multiplier à l'infini. À la caisse où on vous rend trop de sous, maintenant on ne vous rend pas, on ne vous en rend pas puisque vous payez avec votre carte bancaire. Mais si vous payez avec la monnaie sonnante et trébuchante, il peut arriver que on vous rende plus. Alors, souvent on ne dit rien quand on rend plus, parce que vous savez, la dernière fois on m'en a rendu moins. Hein. Je me souviens d'une fois, j'étais gamin, et je faisais les marchés à l'époque, avec des amis, et je devais m'acheter une paire de bottes pour aller à la pêche. Déjà, j'étais un mordu de pêche, et donc je vais sur le stand et je demande une paire de bottes, et je me rappelle, c'était 50 francs à l'époque. C'était vrai, les jeunes de moins de 20 ans, ils peuvent pas connaître, quoi. Hein. Et donc, j'avais tendu un billet de 50 francs à la dame. Et la dame, elle m'a rendu un billet de 50 francs. Super, faire de votre cadeau, c'était les promos, quoi. Mais ça n'existait pas à l'époque. Et donc, qu'est-ce que je fais? J'étais pas converti, j'étais un gamin. J'avais 14, 15 ans, quoi. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que vous auriez fait? Ah, ça trottait dans ma tête quand même un petit moment. Hein. Et puis en fin de compte, j'ai dit à la dame, madame, je ne vous ai pas donné un billet de 100 francs, je vous ai donné un billet de 50, je vous rends votre billet de 50. Oh, merci mon petit. Alors parce que tu es très honnête, je t'offre la paire de bottes. Wow, hein. Et c'est quelque chose, vous voyez, ça fait oui, quelques années déjà. Je me rappelle de cela. Et bien d'autres choses comme ça qui m'ont montré que l'intégrité, même dans mon travail, est intègre dans son travail. Combien j'ai pu voir la grâce de Dieu dans maintes occasions. Et de voir combien Dieu nous accompagne. Alors c'est vrai que ce n'est pas toujours payant comme cela. Hein? Des fois, ça peut vous attirer des ennuis d'être intègre, bien entendu. Mais je me dis, être intègre dans les choses matérielles, dans les choses de la vie de tous les jours, ça me paraît important. Parce que, j'allais dire, les occasions sont tellement nombreuses. Petites choses comme ça peuvent déraper. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais un premier cas d'intégrité me vient à l'esprit. C'est celui d'Abraham. Abraham, qui, lui, fait la guerre parce qu'il faut survivre. Et c'est certainement pas plaisant. Et quand il remporte des victoires, eh bien, le roi de Sodome lui dit, on va peut-être faire un compromis, quoi. On va essayer... Vous savez, aujourd'hui, on négocie aujourd'hui. Hein. On négocie tout. Et on voit comment ça se passe. Et souvent, ça se passe toujours très mal. Mais c'est quand même bien de négocier. Mais des fois, on est tellement dans le compromis que ça ne marche pas, quoi. Et donc, le roi de Sodome va faire une proposition à Abraham, j'allais dire une proposition sordide, à savoir qu'il lui faut lui donner des jeunes gens pour son plaisir particulier, hein, contre des biens matériels. J'allais dire, c'est... Ce marchandage-là, c'est quelque chose de terrible. Quand ce sont à des fins, j'allais dire, comme je l'ai dit, sordides. Et Abraham va répondre dans la Genèse au chapitre 14, au verset 23-24. Je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi. Pas même un fil ni une bride de sandales. Pour que tu ne puisses pas dire, j'ai enrichi Abraham. Rien pour moi, seulement ce qu'ont mangé les jeunes gens et la part des hommes qui sont allés avec moi. Amner, Eshkol, Mamré, eux, ils prendront leur part. Je crois que l'intégrité, c'est quelque chose qui est en soi, qui se travaille, et dans lequel, c'est vrai qu'on peut être tous les jours, j'allais dire, mis en face de ce sujet. Et puis, il y a l'intégrité, après les biens matériels, il y a l'intégrité par rapport à l'argent. Alors l'argent, hein, c'est tabou. Hein. C'est tabou dans l'Église, il ne faut surtout pas parler d'argent. J'ai entendu encore parler, il n'y a pas bien longtemps, on parle que d'argent dans cette Église. Je crois que ça doit faire il y a 2 ans que je n'en ai pas parlé. Mais on s'aperçoit que même dans le temple, à l'époque de l'Ancien Testament, lors de la restauration du temple, eh bien, on s'aperçoit que les gens apportaient de l'argent pour la restauration du temple. Et cet argent était comptabilisé, il était compté, et il était distribué, et il allait là où il devait aller. Et il nous est dit dans 2 Rois, chapitre 12, verset 16, qu'ils agissaient avec probité. Là, on peut regarder ça dans 2 Rois, chapitre 12, et on peut lire à partir... Alors j'ai une nouvelle Bible, je suis un peu perdu, où il est dit au verset 13, « Mais avec l'argent qu'on apportait dans la maison de l'Éternel, on ne fit pour la maison de l'Éternel ni bassin d'argent, ni couteau, ni coupe, ni trompette, ni aucun instrument d'or ou d'argent. On le donnait à ceux qui faisaient l'ouvrage, afin qu'ils l'emploient à réparer la maison de l'Éternel. On ne demandait pas de compte aux hommes entre les mains desquels on remettait l'argent, pour qu'ils le donnent à ceux qui faisaient l'ouvrage, car ils agissaient avec probité. » Quelle confiance. On ne leur demandait pas des comptes. Aujourd'hui, on vous demande des comptes surtout. L'argent des sacrifices, des culpabilités, des sacrifices d'expiation n'était point apporté dans la maison de l'Éternel. Il était pour les sacrificateurs. On s'aperçoit que, à cette époque-là, l'argent était distribué et était bien dépensé. Les dons n'étaient pas détournés. Ça arrive, là. Même dans nos églises, des fois, des offrandes sont faites pour telle œuvre, tel sujet. Mais comme il y a des besoins plus pressants, alors on utilise cet argent, alors que celui-ci était destiné à autre chose. Ça s'appelle du détournement. Je crois que c'est important, la gestion de l'argent. C'est important, la gestion de l'argent dans l'Église. C'est pourquoi qu'aujourd'hui, nous avons des trésoriers, des comptables, qui au centime près, eh bien, établissent les comptes, les recettes, les dépenses. Et ainsi, l'argent est utilisé à bon escient. Il n'est pas détourné, ce pourquoi il doit être utilisé. La restauration du temple. Je me dis parfois, est-ce que nous n'avons pas besoin de restaurer quelque chose dans nos vies, dans ce domaine-là, vis-à-vis du temple? Est-ce que nous sommes intègres vis-à-vis du temple? C'est important. Nous devons nous mettre devant le Seigneur. Le laisser nous sonder. Oui, c'est important. Un autre domaine où il nous faut être intègre, c'est celui de nos relations avec le sexe opposé. Nous avons un témoignage dans l'Ancien Testament, dans la Genèse, chapitre 39, versets 1 à 23. Vous connaissez cette histoire de Joseph? On a déjà parlé un petit peu. Hein. l'histoire de Joseph. Ah, ça devait être un très bel homme, sans doute. Mais voilà, il était employé dans la maison de Potiphar. Et là, la tentation est là. Et je crois que les uns et les autres, nous pouvons être confrontés à une situation semblable. Quelles sont nos relations, j'allais dire, avec ceux du sexe opposé? Quel est notre regard? Quelles sont nos intentions? Quelles sont nos pensées? Il semblerait, quand je relis ce texte, que, en fin de compte, ce n'est pas Joseph qui a jeté un regard sur la femme de Potiphar, mais c'est plutôt elle. Eh oui, c'est pas toujours les gars qui courent après les filles, quoi. Hein. Et encore plus dans le monde d'aujourd'hui. Eh oui. Et donc, c'est vrai que c'est des choses auxquelles on peut être confronté. Combien de fois dans mon travail, je me suis trouvé confronté. J'ai eu l'occasion de travailler avec des femmes. Et j'étais dans une certaine occasion responsable dans un atelier de couturière, où il y avait une centaine de couturières. Ouïouïouï ! J'étais jeune, j'étais beau, j'étais élégant, pas comme aujourd'hui. J'ai pris un peu l'embonpoint depuis. Et c'est vrai qu'à chaque fois que j'allais dans l'atelier, il y avait une ou deux personnes. Eh oui, parce que dans l'atelier de couture, vous avez des femmes mariées, des femmes qui ne sont pas mariées. Et vous savez, déjà à cette époque-là, marié ou pas marié, ça ne changeait pas grand-chose. Hein. Et je voyais que plusieurs me tournaient autour. Quoi. Alors c'est difficile, ces situations-là. Parce que quand vous devez intervenir, des fois j'étais obligé d'intervenir sur une machine, hein, une machine industrielle, vous savez, c'est faut y aller. Hein. Et puis à la cuisse, il y a... On appelle ça une espèce de genouillère qui fait pour lever le pied de biche. Hein, les sœurs doivent connaître ça, hein, le pied de biche sur une machine à coudre. Hein, alors, au lieu de le lever à la main, alors elle le levait avec la cuisse. Et je me souviens d'une fois, une jeune femme très jolie, qui m'appelle et qui me dit « Ah là là, j'ai mal à ma cuisse, regardez. J'ai des bleus, ma genouillère, là, elle me fait mal, il faut la régler, elle est trop dure. » Vous voyez, c'est ce genre de choses auxquelles on peut être confronté. Et qui vous remonte sa jupe jusqu'à la culotte. Je dis, j'ai pas besoin de voir votre culotte, j'ai besoin de voir que votre genou. Hein? Et en même temps, de venir régler votre machine. Mais cela, c'était courant. Et ces jeunes femmes habillées très légèrement, où vous voyez tout ce qu'elles possèdent, même sans qu'elles se baissent. Vous ne trouvez pas que c'est de la tentation, ça? C'est poussé au crime, ça, non? Et oui, il faut refuser, là, dans ces choses-là. Quelle relation on peut avoir? Et souvent, quand j'étais obligé d'intervenir comme cela, sur des machines, d'autres, sur des presses, je disais à ces personnes-là que je savais un petit peu plus légère, je disais, vous pouvez aller aux toilettes si vous voulez, si vous pouvez vous soulager, ça vous fera du bien. Et oui, éteindre. Les occasions ne manquent pas. Elles ne manquent pas. C'en est quelques-unes parmi tant d'autres. Et là, dans notre cas, Joseph, il a dû se dire, « Ah, quelle belle occasion! Quelle belle femme, sans doute! Une cougar! » Ah oui, je suis moderne, hein? Peut-être qu'il y en a qui ne savent pas ce que ça veut dire, mais d'autres le savent. Eh oui, occasion! Personne n'y verra rien, d'autant plus que c'est elle qui fait de l'appel du pied. Je tombe ou je tombe pas. Et Joseph a eu la bonne attitude. Ouf ! Son cœur a dû battre. Hein. Eh oui. Il a refusé. Il a refusé de coucher avec la femme de son patron. Et c'est pourquoi elle dit dans Genèse 39, 1, 23 et au verset 9, « Comment commettrai-je un si grand péché contre mon maître. » Quelle attitude! Il est sorti vainqueur. Mais ça, ce sont des grandes victoires. Que Dieu soit béni pour cela. Vous savez, la tentation, c'est quelque chose qui est toujours à notre porte. Le tentateur ne nous lâche jamais. Quelqu'un a dit, pour ne pas être tenté, il suffit d'y tomber. C'est terrible, ça, comme parole. Et nous voyons que Joseph, eh bien, a été victorieux dans son comportement, dans son attitude. Oh, c'est vrai que son attitude n'a pas payé dans ce cas-là. Hein, parce qu'il s'est retrouvé en prison. Ah. Peut-être il a dû se dire, si j'avais su, mais peut-être on lui aurait coupé la tête après. Alors, je me dis en fin de compte, de deux mots, il faut choisir le moindre. Et il a choisi la bonne part. Maintenant, l'intégrité. L'intégrité aussi, dans ce qui vous est annoncé chaque jour. L'intégrité dans la parole de Dieu. Être intègre, ne pas dénaturer ce que Dieu dit. Ne pas dénaturer ce que Dieu veut annoncer. C'est dans 1 Roi, chapitre 22, verset 14. On voit là où Acab devait mener la guerre contre les ennemis, encore une fois. Et que tous les prophètes disaient, il faut y aller, il faut y aller, il faut y aller, il faut y aller. Et le roi vient trouver Michée et lui dit, et toi, prophète, qu'est-ce que tu dis ? Oh, la victoire est assurée. Vous savez ce qu'a lui dit le roi ? Il lui dit, t'es un menteur. Vous voyez, le diable, il sait si nous disons la vérité ou si nous mentons. Dis-moi ce que Dieu t'a dit. Et Michée recommence, il dit, ah non, arrête. Dis-moi la vérité. Et comme il est dit dans le verset 14, ce que l'Éternel me dira, je l'annoncerai. Et Michée dit à Acab, il ne faut pas y aller. Il ne faut pas aller à la guerre. Vous savez, c'est toujours tant difficile de dire la vérité. Vous n'avez pas trouvé des fois que c'était difficile de dire la vérité ? Surtout quand vous êtes devant quelqu'un qui est plus puissant que vous, et que des dizaines de prophètes avaient dit à Acab, il faut y aller. C'est une parole contre tous. Qui a raison ? Qui a raison ? C'est difficile, hein ? Et Michée a dit, ce que l'Éternel me dira, je l'annoncerai. Et je crois que c'est quelque chose d'important. C'est ce qu'on retrouve d'ailleurs dans le Nouveau Testament, quand Paul parle, par exemple, de dispenser droitement la parole de Dieu. C'est-à-dire littéralement découper droitement, être attaché à la vraie parole telle qu'elle est enseignée. C'est ce qu'on trouve dans Tite, c'est ce qu'on trouve dans Timothée. Relisez ces lettres pastorales et vous verrez l'intégrité dans la parole de Dieu. Un autre domaine, nous l'avons abordé un petit peu parce que c'était dans l'Ancien Testament. Maintenant, on est toujours aussi dans l'Ancien Testament, mais qui préfigure le Nouveau Testament dans Malachie, chapitre 3, verset 7. Je vais vous bousculer ce matin un petit peu, comme je le fais habituellement. En vous posant une question, vous ne répondrez pas, vous répondrez dans votre cœur. À qui donnez-vous vos dîmes ? Ça, c'est un pavé dans la mare. Et si vous en donnez ? C'est un sujet, là aussi. Hein, on revient sur ce problème d'argent. J'aimerais vous dire... Alors, c'est vrai que on peut me dire, ouais, mais dans le Nouveau Testament, on ne parle pas de dîmes. On parle d'offrande. Oui, exact. Mais je vais vous dire une chose, je trouve que ce qu'on trouve dans le Nouveau Testament est plus fort que ce qu'on trouve dans l'Ancien. Dans l'Ancien Testament, ils étaient tous sous la loi, et nous sommes sous la grâce. Vous avez chaud, vous pouvez ouvrir les fenêtres ou la porte là-bas. Attention, courant d'air pour attraper le froid. Vous savez, dans 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 13 à 14, il est dit, « Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple, que ceux qui servent l'autel ont part à l'autel, De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. Combien de pasteurs aujourd'hui dans nos églises, quelles que soient les dénominations, ne peuvent plus vivre de l'Évangile. Un vrai problème. J'aimerais que vous puissiez faire ce matin le parallèle, la comparaison entre les sacrificateurs du temple et ceux qui annoncent l'Évangile. Les sacrificateurs d'Ancien Testament, ils vivaient de la dîme qui était apportée par le peuple. De même, aussi ceux qui annoncent l'Évangile, on trouve cela dans Nombre, chapitre 22 à 32, et notamment le verset 31, puis dans Hébreux, chapitre 7, verset 5. Et en relisant, j'allais dire plus profondément, mon Nouveau Testament, eh bien j'ai relu, et parce que des fois, vous savez, on saute des passages parce qu'on les a lus trois fois, quatre fois, dix fois. Et puis, je connais ça par cœur. Et puis, dans le texte de 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 18, eh bien, Paul parle de son droit de prédicateur. Et mes frères et sœurs, la dîme est le droit de prédicateur. Alors, il en fait usage ou il n'en fait pas usage? Et s'il n'en fait pas usage, c'est une décision personnelle. Ça dépend donc de la décision de chacun. Mais néanmoins, nous devons donner à Dieu ce qui revient à Dieu. Parce qu'il s'agit d'un droit et en même temps un ordre du Seigneur. Et dans 1 Corinthiens 9, 14, il dit « Le Seigneur a ordonné que ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile ». L'usage qui est fait de la dîme, normalement, ne devrait pas nous regarder. Mais dans notre société démocratique et nos églises, entre guillemets, dites démocratiques, tout est transparent. Et c'est pourquoi chaque centime, comme je disais tout à l'heure, est répertorié. Je vous lis un texte dans Nombre, chapitre 18, versets 31-32. Où il est dit, c'est votre salaire pour le service que vous faites dans la tente d'assignation. Vous ne serez chargé pour cela d'aucun péché quand vous aurez prélevé le meilleur. Quand j'entends certains dire, j'ai pas besoin de donner de l'argent à l'église, elle est bien assez riche. Mais savez-vous que nos églises sont en train de mourir aujourd'hui? Est-ce que vous le savez? Parce qu'il n'y a pas de prédicateurs? Ou alors il faut que les prédicateurs vivent sur leur retraite? Et c'est pourquoi à 70 ans, 72 ans encore, vous avez des prédicateurs qui sont là devant vous. Et j'en ai connu, et il y en a eu un qui est décédé cette année, Lucien Clerc, qui jusqu'à 90 ans, 92 ans, eh bien était derrière ce pupitre. Est-ce que vous trouvez ça normal? Qu'il continue à prêcher, je trouve que c'est normal. Mais qu'il meure comme des misérables dans une pauvre maison de retraite. Je trouve ça honteux. J'ai trouvé une note de Frédéric Godet, commentaire sur la première épître de Corinthiens, sur les versets 13 et 14. Le verset 13 dit « On sait que les Lévites vivaient de leur emploi au moyen des dîmes et des offrandes payées par le peuple, et que de même les sacrificateurs vivaient de l'autel. D'abord au moyen des dîmes que leur payaient les Lévites, puis spécialement par la portion des victimes qui leur était réservé. » Et au verset 14, il donne cette explication. L'expression « vivre de l'Évangile » peut s'appliquer selon les lieux ou selon les temps à des dons libres ou à un traitement régulier. Le principe importe peu. D'après saint Paul, le Seigneur a donc établi dans son Église une classe de membres occupant une position particulière, tandis que les autres croyants réalisent la vie nouvelle dans l'exercice d'une profession terrestre qui les fait vivre. Ceux-ci renoncent à toute occupation temporelle pour consacrer tout leur temps et toute leur force au développement de la vie spirituelle chez les autres hommes. C'est par conséquent l'Église à laquelle ils consacrent ainsi leur vie qui a le devoir de pourvoir à leur entretien matériel comme Jésus a pourvu à la subsistance de ses disciples dès le jour où il leur a ordonné de laisser leur filet et leur a dit, je vous ferai pêcheurs d'hommes. Voilà ce qu'il en est. en ce qui concerne le domaine de nos dîmes et de nos offrandes pour l'Église aujourd'hui. Réfléchissez à cela. La dîme, vous le savez certainement, c'est le dixième des revenus qui rentrent à la maison. C'est le dixième des salaires, le dixième, j'allais dire, même des allocations familiales et logements, puisque c'est de l'argent qui rentre à la maison, de toutes les aides que vous pouvez avoir d'une manière ou d'une autre. C'est de l'argent qui rentre comme rémunération. Ce sont vos retraites, vos complémentaires, etc. Certains ne savent pas, ils disent « Ah ben oui, mais je ne travaille plus. » Mais vous touchez bien une retraite. Et Dieu dit, même si ce n'est pas, on va dire, moi si je ne le considère pas comme un ordre, moi je le considère aussi comme enseignement encore à l'Église. Et puis, un autre sujet sur l'intégrité, c'est ce qui concerne le péché. Et le péché dans l'Église. Nous avons un texte dans Matthieu chapitre 15, verset 18, qui nous dit « Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que l'affaire se règle sous la déclaration de deux ou trois témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église, et s'il refuse d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. » C'est délicat, ça, hein, le péché dans l'Église. Si quelqu'un a péché, je crois que dans toute affaire, et particulièrement en ce qui concerne l'Église, et chacun d'entre nous, est-ce que nous sommes intègres vis-à-vis de notre frère, vis-à-vis de notre sœur? Souvent, je m'aperçois qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites par derrière. Mais lorsqu'on vous a fait du tort, ça arrive cela. Quelqu'un qui vous a fait du tort, ou quelqu'un qui a fait du tort à un autre, et que vous le savez. Peut-être que vous avez été lui tirer son short, mais je vois que ce matin, personne n'est venu en short. Ah si, excuse-moi. Est-ce que vous avez été lui tirer son short pour lui dire, mon frère, c'est pas bien ce que tu as fait, ou ce que tu fais. On n'est pas là pour tailler un short à l'un ou à l'autre, mais nous sommes là pour rétablir des situations délicates. Vous savez, des fois, on suppose, mais la supposition n'est pas forcément en vérité. Et parfois, nous devons prendre position. Nous devons vérifier et nous assurer que telle ou telle personne concernée, eh bien, n'a pas chuté, ne s'est pas détournée, n'est pas tombée. Alors soyons délicats, soyons amour avec ceux qui tombent afin de le relever. Tout à l'heure, nous avons chanté ce chant. L'Église est le lieu pour relever. L'Église est le lieu pour reconstruire. L'Église est le lieu pour restaurer. L'Église est le lieu pour consoler. L'Église est le lieu pour fortifier. Et non pas pour abattre. J'aimerais terminer là et vous montrer que ce que produit l'absence d'intégrité. Dans Ézéchiel chapitre 22, verset 12, il est dit « Chez toi, on reçoit des présents pour répandre le sang. Tu exiges un intérêt et une usure. Tu dépouilles ton prochain par la violence. Et moi, tu m'oublies, dit le Seigneur, l'Éternel. » Voyons que les gens de l'époque d'Ézéchiel, eh bien, ils étaient plus intéressés par leurs propres affaires, leurs propres intérêts. Et donc, ils n'avaient pas peur de dépouiller les autres, pas peur de répandre le sang, d'exiger des intérêts sur l'argent ou une usure quelconque, et ils dépouillaient leur prochain par la violence. Ils manquaient d'intégrité. Et en même temps, ils n'étaient pas justes avec Dieu, puisqu'ils oubliaient Dieu. Et nous voyons que cet oubli, eh bien, ils ont perdu. Mais une chose est certaine, c'est que le psalmiste dit, au psaume 41, verset 13, « Tu m'as soutenu à cause de mon intégrité. » Celui qui n'est pas intègre, mes frères et sœurs, se désintègre. Nous avons dans la parole de Dieu des hommes de compromis, des hommes qui sont devenus médiocres. Adam a trahi la confiance divine. S'il avait été intègre dans son comportement et dans le commandement qui lui avait été donné, il n'aurait pas mangé du fruit défendu. Ce fut un acte de révolte et de haute trahison volontaire à cause de cela. Et vous savez ce qui est arrivé à cause de cela ?
Pardon ?
La séparation avec Dieu.
Ben oui, l'écart avec Dieu, mais c'est l'entrée du péché. Voilà la conséquence. C'est pour ça, c'est la faute d'Adam. Ben oui, mais Dieu n'a pas considéré ça comme ça. Adam a rompu son alliance divine. Il a été chassé du jardin d'Éden. Il n'a pas été intègre. Il a donné libre cours à sa convoitise. Il a placé toute sa descendance sous la domination du péché. Et puis il y a Lot également. Lot semblait quelqu'un de très spirituel au départ. La suite des événements montre qu'il ne l'était pas. Les péchés de certains hommes se voient de suite. Pour d'autres, il faut un peu plus de temps. Il semblait obéir à l'homme de Dieu, son oncle Abraham. Il marchait avec lui, sur ses traces. Mais une circonstance fortuite révèle l'état de son cœur. Une querelle avec des bergers. Lot montre le fond de son cœur. Il va choisir la vallée de Sodome, qui était arrosée comme un jardin d'Éden. Son choix n'était pas spirituel. Il cherchait son propre avantage. Peut-être s'est-il dit, mais pourquoi suivre un homme de Dieu? Pourquoi aller à l'église? Pourquoi faire ceci? Pourquoi faire cela pour Dieu? Quels sont nos mobiles secrets, mes frères et sœurs? Il cherchait ses intérêts et il va s'installer aux portes de cette ville dépravée. Il finit par être prisonnier. Et puis Balaam, qu'on trouve dans l'Ancien Testament, un prophète, mais un prophète douteux, qui pourtant connaît Dieu. Le roi de Moab veut qu'il maudisse Israël. Son cœur est attiré par les honneurs, par la pain du gain. Il sait ce que Dieu veut, mais il va dans le sens opposé. Pour finir, il finira tué par l'épée. Sa bouche était pleine de paroles de Dieu, mais le cœur poursuivait les biens de ce monde. Et puis Élie le sacrificateur. Il était devenu un homme lourd, pesant, pratiquement aveugle. Il avait des vêtements de sacrificateur, il avait l'onction, il officiait dans le lieu saint de Silo. Il honorait plus ses fils que Dieu, et il le reprenait mollement. C'est alors que le jeune Samuel recevra la communication divine dans le temple. La faiblesse morale l'amènera à être foudroyé d'une crise cardiaque quand l'arche de Dieu sera prise par ses adversaires. Et puis que dire de Saül ? Ce fut le premier roi d'Israël. Plus beau qu'aucun des enfants d'Israël, il les dépassait tous de la tête. Mais il ne suit pas entièrement les ordres du prophète Samuel. Il ne va pas jusqu'au bout de l'ordre divin, il se laisse influencer par le peuple. Il croit plaire à Dieu tout en désobéissant à sa voix. Il part de bonne intention, il finit dans un champ de bataille, blessé par ses ennemis, et il se fait achever. Géasi, le serviteur du prophète Élisée, lui aussi n'était pas intègre. Un jour, le prophète lui délègue son bâton pour faire revenir la vie de l'enfant de la Tsunamite, mais l'enfant ne revient pas à Lévi. Pourquoi donc Élisée lui a remis le bâton? Parce qu'il pensait que Géasi pouvait commencer quelques exercices spirituels. Mais la réalité se fait jour, catastrophe. Élisée découvre que son serviteur n'est pas à la hauteur. Plus tard, après que Naaman fut guéri de sa lèpre, dans le dos de son maître, il va le rattraper et lui demanda, au moyen d'un mensonge, de lui donner ce que Naaman avait pensé offrir au prophète Élisée. Un homme intègre ne se laisse pas guider par les circonstances. Il attrapera la lèpre de Naaman. Le prophète Amos aurait pu dire à tous ces hommes, Amos 3:10, ils ne savent pas agir avec droiture. Nous avons l'exemple de Moïse qui lui non plus n'a pas été intègre, puisqu'il avait négligé ou tardé de circoncire son fils Guershom. Et dans la nuit, l'Éternel l'attaqua il voulut le faire mourir. Et nous voyons que c'est sa femme, des fois une femme, c'est précieux. Et Séphora était précieuse pour Moïse qui a pris une pierre et a circoncis son fils en disant « époux de sang ». Là, l'Éternel le laissa tranquille et put accomplir sa destinée. Voyez-vous, le manque d'intégrité fait que l'on peut manquer tragiquement sa destinée. Combien même Dieu nous a appelés et mandatés. On voit cela dans Exode. Nombre d'hommes, de femmes, appelés de Dieu, se sont crus dispensés d'être intègres dans tel ou tel domaine de leur vie. Et cela leur a coûté leur ministère. Notez bien que tous ceux-là qui finissent mal, Adam, c'est la séparation d'avec Dieu et chassé du jardin d'Éden. Lot devient prisonnier de ses ennemis. Balaam est tué par l'épée. Saül est blessé sur le champ de bataille et se suicide. Géasi attrape la lèpre de Naaman. Celui qui n'est pas intègre se désintègre. Dieu a promis à Abraham qu'il établirait son alliance avec lui et qu'il le multiplierait à l'extrême. Vous savez, le diable divise, mes frères et sœurs, et vous le savez bien. Le diable ne fait jamais de multiplication, il divise. Vous savez, Abraham a dû changer de nom, il a dû changer d'identité. Il y a eu un tournant dans sa vie. Et je crois que c'est parfois important. Je vous ai dit au verset 26, « Ce jour même, Abraham fut circoncis, ainsi que son fils Ismaël. De même, tous les hommes de sa maison, nés dans sa maison, ou à qui a pris l'argent des étrangers, fut circoncis avec lui. » Mes frères et sœurs, nous devons apprendre ou continuer à agir de manière intègre. C'est important. Il y va de votre paix, il y va de votre vie, il y va de votre bonheur, il y va de votre joie, il y va aussi même de votre guérison. C'est aussi important de confesser ses péchés. Je me souviens dans ma vie, à un moment donné, j'étais tout jeune converti, je n'étais pas intègre. Je suis tombé malade. J'avais prié Dieu. Et je lui ai dit, Seigneur, je ne comprends pas. Je suis tombé malade, cloué sur le lit. Et j'ai dit, Seigneur, je t'ai demandé pardon pour ce que j'ai fait de mal. Et le Seigneur m'a parlé. Parce qu'il faut savoir écouter ce que Dieu nous dit, ce qu'il nous dit dans notre cœur. Et Dieu m'a dit, oui, tu m'as demandé pardon. Mais la personne à qui tu as fait du mal, mais Seigneur, elle, je ne lui ai pas fait du mal, elle ne le sait pas. Elle ne le sait pas. Eh oui, je n'étais pas intègre. Alors j'ai lutté. Et plus je luttais, jour après jour, je souffrais de plus en plus. Jusqu'au jour où, n'y tenant plus, et là encore, parole de Dieu me vient, alors j'étais sur mon lit, trempé de transpiration, de fièvre. Je lui dis au Seigneur, je lui dis, je vais dire la vérité. Alors il m'a dit, lève-toi et marche, parce que je ne pouvais plus marcher à cette époque. Lève-toi et marche, mais Seigneur, lève-toi et marche. Je suis descendu de mon lit. Et j'ai dit la vérité à mon épouse. Et instantanément, j'ai été guéri. Que le Seigneur vous bénisse. Je ne sais pas si ça sert à quelqu'un ce matin. Ce n'est pas un témoignage que donne tout le temps, mais peut-être quelqu'un ce matin en a besoin. Que Dieu vous bénisse. On va se courber et demander à Dieu sa bénédiction. Seigneur, tu sais combien ce message n'est pas un message facile parce que il nous dit des choses que peut-être nous avons déjà entendues, que nous avons lues, mais que peut-être tu nous rappelles encore ce matin Je veux croire avec l'aide de ton esprit pour que nos cœurs soient pénétrés, touchés. Oh, tu ne juges pas, tu ne condamnes pas, parce que tu es un père d'amour, mais tu veux que nous puissions régulariser nos situations. Nous puissions nous mettre en règle avec toi sur tous les domaines que nous avons évoqués. Certes, tous les points ne nous concernent pas, mais peut-être un point. Un point me concerne. Seigneur, tu le sais. Tu vois, toi qui sondes mon cœur et mes reins, tu connais ma droiture, tu connais mon intégrité. Et Seigneur, s'il y a quelques failles dans ma vie, montre-moi-les. Que ton esprit, Seigneur, soit là, à l'œuvre, en chacun de nous. Merci, Seigneur, pour ton immense bonté, ton amour infini. Tu nous as sauvés par grâce, rachetés, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous aurions dans l'Ancien Testament, peut-être, nous aurions été condamnés, mais là, tu nous fais grâce encore, Seigneur, et nous goûtons à ton pardon, Seigneur, et je veux te dire merci, Seigneur, parce que tu pardonnes. Tu pardonnes chacun de nous. Mais quand nous demandons pardon, bien nous sommes aussi pardonnés. Alors à ton nom soit toute la gloire, la louange et la reconnaissance de nos cœurs. Merci Seigneur. Amen.
Amen.
Gloire à Dieu.